Braconnage, trafic d'espèces sauvages, stop au massacre. Selon Interpol, le trafic d'espèces sauvages augmente de 5 à 7% par an. Une criminalité organisée qui alimente un marché juteux, totalisant des milliards d'euros par an et qui menace, on s'en doute, la biodiversité, mais aussi la santé humaine. Mais cette pratique criminelle alimente aussi d'autres activités illicites, comme le blanchiment d'argent, la corruption et parfois même des groupes armés et des réseaux terroristes. Malgré les législations en vigueur et les peines encourues, le massacre continue. Comment lutter contre ce fléau et avec quels moyens? État des lieux et réponses avec le chercheur Florian Kirchner. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé du programme Espèces au sein du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et vous êtes auteur du livre Faune fragile, un livre paru aux éditions Teria. Et avec nous aussi l'artiste Warren Ellis. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes musicien, compositeur, auteur, hein, et on le sait peut-être moins, mais vous êtes aussi fondateur du Ellis Park à Sumatra. Et à vos côtés, l'interprète Michel Zlotowski. Une émission, je le précise, en partenariat avec la coalition Hashtag Sauver le Présent, qui réunit France Culture, Le Parisien aujourd'hui en France, Ouzbek Erika et Sciences et Vie Junior, bientôt rejoint par Les Échos. Un dossier complet sur le trafic d'espèces à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et puis dans l'œil du monde planète, la journaliste du quotidien Le Monde, Perrine Moutarde, nous parlera de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine et de son état depuis le départ des soldats russes. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales avec l'appui de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malkar, assistée de Anne-Lise Assada et à la technique ce soir, Marie-Claire Oumabadi.
Près de 500 kilos d'écailles de tortues marines, c'est la saisie exceptionnelle réalisée par les douaniers de Roissy. La marchandise en provenance d'Haïti et à destination du Vietnam était confinée dans 13 colis identiques. Sur le marché, la valeur de cette prise est estimée à 300 000 euros.
Plus de 300 tortues qui ont été assassinées, et qui n'ont pas été assassinées pour leur chair, mais uniquement pour les écailles, la carapace de tortue. Au cas particulier, à 13 écailles, et ces 13 écailles vont être destinées à la fabrication d'un certain nombre d'articles qui vont être des peignes, qui vont être la lunetterie, des pendentifs, mais aussi un certain nombre de meubles qui sont très utilisés ou très convoités, on va dire, en Asie du Sud-Est.
Aujourd'hui, le commerce d'écailles de tortue est strictement prohibé. Pourtant, son trafic est en constante augmentation.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 19 juillet 2017, Florian Kirchner. Quand on parle de trafic d'espèces, on parle de quoi? Il y a des espèces animales et végétales qui sont certainement plus touchées, des zones géographiques plus impactées?
Oui, alors avec les trafics d'espèces sauvages, en fait on parle de l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'espèces, des plantes ou des animaux qui sont affectés dans le monde. Et malheureusement, c'est un petit peu toutes les espèces. On entend parler des tortues marines là, dans le son qu'on vient d'entendre, mais ça peut être les éléphants pour leur ivoire, les rhinocéros pour leurs cornes. Ça peut être des plantes comme les cactus qui sont très prisées. Ça peut être des bois précieux, des pangolins pour leurs écailles, des oiseaux comme des perroquets. Donc des animaux vivants ou morts dont on vend des parties ou qu'on vend en entier et qui suscitent des convoitises très fortes et qui alimentent des trafics très lucratifs.
Et donc des trafics, hein, on comprend que ce sont des trafics juteux qui représentent plusieurs millions d'euros, c'est ça? À la limite, des trafics plus intéressants presque que le trafic de cocaïne et l'or?
Ouais, alors on parle même des estimations d'environ 20 milliards d'euros, c'est ça, par an. Alors là, c'est parce qu'on parle de trafics internationaux, en fait. C'est des trafics qui se font à l'échelle de la planète, qui sont organisés par de véritables réseaux criminels organisés. Et c'est des produits qui se vendent tellement cher sur les marchés noirs que, mis bout à bout, comme ça, on arrive à cette estimation faramineuse de 20 milliards d'euros que représentent ces trafics. Ça veut dire que ça place les trafics d'espèces sauvages un peu au même rang que les trafics de drogue, d'armes ou de contrefaçon. On est dans cette gamme de trafics-là.
Est-ce que les atteintes faites au territoire aussi du monde sauvage par les humains, on pense aux déforestations, à l'anthropisation, est-ce que ça génère là aussi peut-être un surcroît de trafic, de braconnage?
Alors oui, tout est lié. Le problème c'est que la faune sauvage ou la flore sauvage sont affectés par beaucoup de menaces. Donc là, vous parlez de destruction des habitats naturels, oui. On peut citer les pollutions, il y a maintenant le changement climatique, et le trafic fait partie de ces grandes menaces. Et effectivement, c'est souvent les menaces s'alimentent les unes les autres. Ce qui est grave, c'est que souvent, une espèce donnée est sous le coup de plusieurs types de menaces. Et donc, parfois, les trafics vont porter le coup de grâce et mener des espèces jusqu'à l'extinction.
Warren Ellis, l'Indonésie est au cœur de vos préoccupations. C'est une de ces zones touchées en particulier?
Oui, c'est grave là-bas. La semaine dernière, en fait, on a eu une crise. Il y avait 1300 animaux trouvés par les chiens parce que je travaille avec une femme qui s'appelle Femke Denhas. Et elle fait plein de choses pour les dauphins, pour les singes. Et elle a des chiens qui trouvent des animaux en train d'être trafiqués. Et en fait, je crois que c'était la police qui donnait le tip them off. Et
mis sur la trace.
Ouais, sur la trace. Et ils ont trouvé 1300 animaux. Il y avait 900 oiseaux locaux d'Indonésie. Et 400 animaux élevés en Thaïlande. Il y avait des suricats, marmosettes et plus que 300 oiseaux africains. Et le problème, c'est que bon, on a créé une infrastructure à Alice Park depuis juillet. On a construit un hôpital vétérinaire, un centre éducationnel pour les enfants. Et heureusement, on a une infrastructure maintenant qui peut, en fait, soutenir ce problème. On a lancé un appel au public. On est en train de construire des enclos pour les suricats, pour les marmosettes, pour les oiseaux, parce qu'ils sont pas locaux. Ils peuvent pas être libérés et en Afrique, ils veulent pas des suricats parce qu'ils sont élevés en Thaïlande. Mmh. Alors, on voit le problème. Qu'est-ce qui se passe avec ces animaux? Et normalement, Femke, elle m'a dit que ils meurent des animaux comme ça. Alors, nous, on essaie, en fait, de parler à la fin de ce problème avec le parc. On a des animaux qui sont blessés, qui ne peuvent pas être libérés. On a des singes avec des bras amputés, des os sans dents. On a des singes qui sont tabassés,
vous pouvez parler en anglais si vous voulez.
Have brain damage.
Ils ont des problèmes avec le cerveau, ils ont le cerveau endommagé.
Ouais, endommagé, et ils ne peuvent pas être libérés. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est donner un vie, a respective life, the best life that these animals can have.
La meilleure vie possible pour ces animaux.
Et qu'ils peuvent en fait mourir dans la paix.
Florian Kirchner, l'Indonésie, donc une des zones touchées. C'est vrai qu'on pense au ravage des plantations de palmiers à huile, hein, sur les habitats souvent des gibbons notamment. Il y a la course au profit du commerce du bois, de la production de latex. J'avais relevé qu'en 2015, 2 millions d'hectares étaient déforestés par an, ce qui représente 6 terrains de foot chaque minute. Et le sud de Sumatra est la principale plaque tournante de la criminalité liée aux espèces sauvages. C'est voilà une des zones peut-être sous surveillance.
Oui, c'est une des zones sous surveillance, comme vous dites. Malheureusement, c'est loin d'être la seule. Toutes les zones tropicales et équatoriales sont extrêmement affectées par ces menaces. À l'UICN, on établit la liste rouge des espèces menacées. Si vous voulez, c'est un recensement des espèces qui sont menacées dans le monde. Et actuellement, alors que le recensement est seulement en cours, hein, et qu'on est loin d'avoir fini, on a déjà recensé plus de 40 000 espèces menacées au niveau mondial. Donc, des espèces qui sont victimes de nos menaces. Et alors, c'est en Indonésie, c'est en Afrique, c'est en Amazonie, mais c'est aussi en Europe autour de nous. Hein. Faut pas se voiler la face, c'est dans les océans. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la crise de la biodiversité, hein, qui frappe toutes les espèces et tous les écosystèmes de la planète.
Donc ce trafic fait peser une réelle menace sur la biodiversité. Est-ce qu'on a un ordre d'idée, peut-être? Difficile à chiffrer, j'imagine.
Ben, ce qu'on sait, c'est que des milliers d'espèces sont affectées par ces menaces-là.
Et beaucoup qui sont déjà soit sur des listes rouges, en tout cas, ou en grave danger. Ce sont celles qui sont les plus génératrices de trafic.
Oui, c'est ça. Ben, si on fait une hiérarchie des menaces, nous, on considère que les trafics d'espèces sauvages, c'est la deuxième menace sur les espèces au monde. Juste après la déforestation, donc la destruction des habitats naturels, qui est la cause numéro un, et de loin. Ensuite, c'est les prélèvements d'espèces. Alors, ça peut être la surpêche dans les océans, mais sinon, c'est tous ces trafics d'espèces qu'on évoque là.
Est-ce qu'on peut parler de criminalité organisée? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle fonctionne et à quel niveau?
Alors oui, on parle de criminalité organisée parce qu'en fait, les trafics dont on parle, c'est pas simplement, faut pas imaginer simplement des villageois qui chassent pour se nourrir. Mmh. Il pourrait y avoir de la chasse de subsistance sur des espèces menacées, mais c'est bien plus grave que ça. C'est de la criminalité organisée au sens où c'est de réelles mafias qui œuvrent à l'échelle mondiale, qui tuent ou enfin braconnent et tuent des espèces à un endroit du monde et ensuite vont les expédier à un autre endroit du monde là où il y a des consommateurs. Et on a par exemple des trafics de l'Indonésie vers l'Asie du Sud-Est ou de l'Afrique vers l'Asie ou de l'Afrique vers l'Europe, etc. Et donc c'est vraiment des filières de criminalité organisée. Et ce qu'on observe, enfin quand on lit les rapports d'Interpol par exemple, c'est que c'est les mêmes mafias qui se prêtent au trafic de drogue ou au trafic d'armes. En fait, c'est un trafic extrêmement lucratif et donc ça suscite l'appétit de réseaux criminels. C'est une façon de se faire de l'argent.
Enfin, on va parler d'Interpol hein, tout à l'heure. On va comprendre effectivement que c'est quand même sous surveillance. Warren Ellis, des menaces ou des dangers que vous avez pu voir peut-être ou ressentir d'ailleurs vous sur le terrain dans le cadre du Ellis Park. Est-ce que vous avez perçu que là, même si vous faites acte de protecteur, est-ce que vos actions sur place peuvent comme ça générer ou des risques, des menaces?
Nous, on était obligés en fait de prendre deux sécurités après cette bust sur le week-end et installer des caméras de surveillance parce que ça va très haut, peut-être dans le militaire, ils ne savent pas. Mais la valeur, c'était 200 000 euros pour les animaux. Alors, c'est comme cocaïne, un truc comme ça. Ouais. Et si un marmosette, ça vaut 4000 euros, le salaire moyen en Indonésie, je crois, c'est 300 euros par semaine, un truc comme ça. Alors, une orang-outan, ça vaut 5000 $. Alors, et l'amende, c'est 100 $. Alors, il n'y a pas un système qui, en fait, dissuade les gens de faire ça. Je comprends, c'est un truc d'économie et tout ça. Mais nous, on est plutôt, pour moi, c'est plutôt un projet de l'espoir. Moi, j'aime beaucoup cette équipe là-bas qui, en fait, ils ont décidé de prendre les problèmes qui ne sont pas à eux et ils essaient, en fait, de gérer. Et pour moi, ça me donne espoir. C'est trop facile d'être cynique ce jour-là.
Mais ça veut dire que malgré tout, il faut mettre en place des systèmes de protection, de sécurité.
Il y a déjà des gens dans l'équipe qui sont tirés dessous avec un flingue et tout ça. C'est sérieux. Nous, on peut pas mettre où c'est exactement le parc pour l'instant.
Donc un commerce qui nécessite aussi des moyens. Oui, Florian Kishnov, non, vous vouliez réagir?
Non, mais c'est ça, c'est tellement lucratif en fait qu'il faut voir que, par exemple, en Afrique, il y a des zones protégées où les rhinocéros sont protégés dans des parcs. Mais les criminels sont tellement organisés, c'est des bandes armées avec de l'armement lourd. Et du coup, en face, il faut des rangers qui sont au moins aussi équipés. Et c'est des rangers qui risquent leur vie aussi pour protéger les rhinocéros. Et les rhinocéros, quand on vend la corde, on la vend parfois en poudre. Et aujourd'hui, le gramme de poudre de rhinocéros peut se monnayer sur les marchés noirs au même tarif que le gramme de cocaïne. En fait, on atteint ces valeurs-là. Et donc, en fait, on a une matière extrêmement précieuse dans la nature qui suscite ces appétits et avec des gens qui sont prêts à tuer même pour s'approvisionner et se mener à ces trafics.
Donc, un commerce qui nécessite des moyens pour pouvoir le contrer. Je vous propose d'écouter, avant de partir sur ce terrain-là, d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur France 3. C'était le 13 février 2020.
Tout ce qui est produits laitiers, viande, produits à base de viande, c'est totalement interdit. À partir du moment où c'est extérieur à l'Union Européenne. D'accord ? Donc là, vous arrivez d'Afrique, c'est pas possible.
Mais un peu plus loin, voici ce qui intéresse les douaniers. Cette femme a ramené dans ses bagages plus de 20 kilos de viande fraîche, emballée dans des sacs plastiques.
Il y a plusieurs morceaux, plusieurs parties. C'est vendu sur les marchés d'après madame, elle l'a acheté sur le marché. Certains font la chasse eux-mêmes, d'autres les achètent directement comme ça.
Des reptiles, du singe, c'est de la viande de brousse. Chaque année, ces douaniers en saisissent 7 tonnes, rien qu'aux aéroports de Paris.
Ce sont des marchandises qui peuvent avoir un prix élevé, notamment par exemple le kilo de singe est très très prisé. On est sur des valeurs qui dépassent la centaine d'euros à la revente en fait. C'est de la viande du pays qui est ramenée pour être consommée ici dans le cadre de fêtes familiales. Mais on a aussi un trafic. Effectivement, on va avoir des viandes en fait, qui vont servir à approvisionner des restaurants dans la région parisienne.
Il y a des singes, mais aussi de l'antilope, du porc épic ou des pangolins. C'est l'animal le plus braconné au monde. un petit mammifère couvert d'écailles en voie d'extinction que l'on peut se procurer sur le sol français.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Florian Kirchner, quand on écoute ce reportage, on réalise que bon, c'est là, c'était à Roissy-Charles de Gaulle, mais on imagine aussi la situation dans d'autres aéroports du monde. Est-ce que nous sommes préparés à lutter contre ce qui est une éco-mafia qui détruit la planète? Et donc, est-ce qu'on est prêt à démanteler les filières, remonter aux commanditaires, ou alors on n'a pas les moyens?
Alors, on est prêt, il y a de la volonté pour, mais clairement pas assez pour le moment et surtout pas assez de moyens. Le petit son là nous parlait de l'aéroport de Roissy, c'est comme efférence ce qui se passe à Roissy. Il faut bien voir que la France est très très concernée par ces trafics. En fait, on est même une plaque tournante des trafics en France. Parce qu'il y a ce hub de Roissy, par où transitent beaucoup de vols. Et là, on l'entendait dans le son, on allait à Roissy en décembre. On a été accueillis par les douaniers avec une petite équipe de l'UICN. Et en fait, on a constaté très facilement le matin des kilos, alors c'est même pas des kilos, c'est des dizaines de kilos de végétaux ou de viande de brousse illégale qui est saisie. Et les douaniers nous disaient que chaque année, simplement au terminal T2 de Roissy, il y a plus de 36 tonnes de matières périssables illégales qui sont saisies. 36 tonnes, c'est énorme. Et en fait, pour 24 000 passagers par jour sur ce terminal, il y a juste 20 douaniers. 20 douaniers, mais au total, c'est l'équipe totale qui font des rotations. Et donc, ils sont clairement pas assez. Et ils n'ont pas assez de moyens de détection des produits légaux. Ils n'ont pas assez de chiens, par exemple. Oui. Donc, on aimerait faire face...
Des contrôles aléatoires, c'est ça?
C'est ça. Donc, eux, ils nous disent qu'ils interceptent qu'une toute petite partie de ce qui se passe, à Roissy.
Alors, en sachant que ce trafic peut prendre les airs, si je peux m'exprimer ainsi, mais prend aussi plus facilement la mer par les containers des bateaux. Et c'est encore plus compliqué de contrôler?
Oui, en fait, toutes les voies logistiques sont exploitées par les trafiquants. Alors, ça peut être des petits bateaux, ça peut être des grands bateaux, ça peut être des voitures. Toutes les voies logistiques et le transport aérien aussi. Donc, du coup, il y a des réponses à mettre en place à tous ces niveaux-là. Il y a des filières à démanteler, toutes les voies logistiques à mieux contrôler si on veut enrayer ces trafics.
Comment ça se passe? Vous travaillez directement avec les services des douanes, avec Interpol, ou quand ils saisissent des animaux en vie, on imagine?
Alors, nous, on travaille bien sûr avec ces acteurs-là, mais pour des recommandations, essayer de trouver des solutions, c'est ça le but. Pour les animaux qui sont saisis, c'est d'autres acteurs, c'est des refuges ou des parcs zoologiques en France, par exemple. Il y a eu, depuis de nombreuses années, il y a eu un combat en France qui était de demander aux aéroports de créer des stations d'accueil pour les animaux saisis. Parce que pendant longtemps, les animaux étaient saisis vivants et il n'y avait aucun endroit pour les mettre. Et en fait, s'il n'y avait pas tout de suite un refuge ou un parc zoologique pour les accueillir, ils étaient euthanasiés. Et en fait, là, seulement depuis récemment, il y a une station d'accueil en France, à Roissy, qui enfin permet d'héberger des animaux vivants dans de bonnes conditions, quelques temps, le temps qu'ils soient accueillis ailleurs. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ces stations d'accueil soient systématisées dans d'autres aéroports. Ça, c'est pour le bien-être animal des animaux qu'on saisit.
Oui, j'allais vous poser la question. Ça, c'est en France, mais ailleurs, d'une manière générale, on trouve de tout, en fait. Situations.
Ouais. Oui, ailleurs, on trouve de tout. Alors, en Europe, on peut imaginer qu'on est bien loti, mais évidemment, il y a plein d'endroits où c'est pas du tout le cas. Mais même chez nous, honnêtement, il y a tellement à faire qu'on a de quoi faire, oui.
En tout cas, sur tout ce qui concerne le trafic par les airs, vous appelez quand même à limiter, par exemple, les bagages. Pas un seul bagage de 23 kilos et pas deux bagages, etc. Déjà, en limitant peut-être la capacité de ramener des quantités plus importantes, c'est une solution que vous préconisez?
Ah oui, ça c'est même ce que nous disent les douanes à Roissy. Il y a comme une situation un peu particulière, c'est que pour les vols venant d'Afrique, quand les vols sont achetés en Afrique, le deuxième bagage de 23 kilos est gratuit, fait partie du billet, pour les vols en économie. Et du coup, personne n'a besoin de 46 kilos pour voyager. Donc les gens, ils voyagent avec leur bagage, et en fait, à l'aéroport, il y a d'autres personnes qui leur confient des bagages. Et du coup, comme ça, passent des kilos et des kilos de viande de brousse. Et donc, on l'a vu de nos yeux, au niveau des douanes à Roissy, les douaniers interceptaient des voyageurs, ils avaient un bagage avec des vêtements ou des choses comme ça, et un autre bagage qui était empli de viande, alors d'agoutis, de pangolins, d'antilopes, de poissons, d'insectes, etc., parfois dans un état de putréfaction que les douaniers peuvent même pas décrire. Et donc, voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, il faut arrêter ce système du deuxième bagage gratuit dans des provenances comme ça.
Oui, en tout cas, le faire payer. Warren Ellis, j'ai vu que vous disiez que vous voyagez avec plus de 23 kilos.
Oui, 50 kilos, mais c'est des costumes et tout ça. C'est pour les concerts, j'ai besoin de 40 kilos. Pas viande.
Non, on imagine que vous n'êtes pas
pour
sur ces
costumes, on peut, ouais.
Pour les costumes,
sur
ouais.
ces questions de trafic. En tout cas, la France, avec sa métropole et ses 12 territoires d'outre-mer, héberge 1889 espèces mondialement menacée. Et vous le disiez, hein, Florent Kirchner, du coup, elle est un des points centraux de ce trafic. En tout cas, c'est le trafic d'espèces sauvages importées en France est l'un des plus lourds. Je crois qu'il est estimé à 2,3 millions d'euros. Les peines qu'on encourt sur le territoire français, maximum 3 ans d'emprisonnement, extrêmement rare, maximum 150 000 euros, je crois, extrêmement rare. C'est-à-dire qu'en fait, on risque pas grand-chose.
Ouais, c'est là tout le problème en fait. C'est que aujourd'hui, n'importe qui se prête à ces trafics risque encourt des peines très faibles par rapport aux gains à espérer. Et donc, s'il y a une disproportion là qu'il faut absolument résoudre, nous ce qu'on demande clairement, c'est que le trafic d'espèces sauvages soit hissé au même niveau que les autres trafics, comme le trafic de drogue ou d'armes. Donc, il faut des peines alors qui sont proportionnées bien sûr, mais qui sont dissuasives. Des peines à la même hauteur que celles qu'on a dans les trafics de drogue par exemple.
Warren Ellis, sur ces questions, vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur les trafics, les plaques tournantes, les.
Moi, quand j'ai rencontré Femke, elle m'a dit exactement qu'est-ce que vous avez dit, que en fait il y avait aucun endroit pour les animaux qui étaient déjà trouvés en train d'être trafiqués ou abusés. Un niveau qui ne pouvait pas être libéré. Et je crois que le parc qu'on a construit, en fait, c'est ouvert à tous les animaux. Si on peut, on va prendre des éléphantes, n'importe quel animal. Et s'il y a des structures, c'est des structures qui sont juste pour les singes. Elle m'a dit qu'en fait, elle n'avait aucun réseau, parc pour les animaux qui étaient trouvés. Comme j'ai expliqué avant, elle a dit normalement ces animaux ils vont mourir. Euthanasie qu'elle a trouvé l'autre semaine, ce 1300. Mais je voulais ajouter aussi la plantation de huile de palme. C'est un problème grave qui là je vois des photos des orang-outans qui sont couper de la maman, il tue la maman, et puis il coupe avec une machette, coupe les doigts parce qu'il tient la maman. Et les orang-outans qui sont menacés, qui cherchent la nourriture dans les plantations de huile de palme, et il y a rien à manger, et eux, ils sont tirés dessus par les fermiers et tout ça. Ça a posé un problème énorme. Et c'était comme ça que, en fait, j'ai rencontré Femke. J'étais proposé à mettre mon visage sur un produit de barbe. Produit sans huile de palme. Et j'ai dit oui, et l'agent s'était en fait distribué vers les sociétés pour les orang-outans et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que je veux faire un truc plus sérieux que ça? Et c'est comme ça, elle m'a dit, on a des animaux
on a
à cause de trafic
où
on a besoin d'espace.
Parce que elle, en fait, Femke Den Haas, elle a fondé une ONG, hein, c'est ça, Jakarta Animal Aid
ouais,
Network,
elle a fondé,
en 2008.
En 2008, ouais, elle a trouvé un orang-outan qui était enchaîné, le peau avait poussé autour de la chaîne, et elle a réussi de libérer l'orang-outan, et puis elle a resté avec l'orang-outan, et elle a décidé de, en fait, elle a dédié sa vie à des animaux. Un animal, c'est né avec que sa vie. Et nous, on veut le prendre. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et elle a, depuis 2008, elle est là. Elle a réussi d'interdire les singes qui dansent, un truc dégueulasse. S'habiller en vêtements, ils sont enchaînés, c'est incroyable. Et elle a aussi réussi de libérer les dauphins dans les eaux. Nous, qu'est-ce qu'on la rêve en fait déjà le parc il y avait there's been an incredible support.
Il y a un soutien extraordinaire
for the park
pour le parc.
Absolutely kind of qui
m'a terriblement ému d'une façon que rien d'autre ne m'a autant ému. Je ne peux simplement que dire merci au public pour avoir soutenu ce parc et permettre à ces gens de faire ce travail extraordinaire. Je trouve que ce qu'ils font est tellement étonnant, ce qu'ils font. Et en fait, ils prennent la responsabilité des problèmes de quelqu'un d'autre. C'est un exemple extraordinaire de défendre la vie sauvage. Et Femke a dédié sa vie, dévoué sa vie au sauvetage d'animaux de toutes les façons possibles.
Et elle a aussi un programme de protection, donc vous le disiez, hein, Warren Ellis, assez large, un sauvetage d'espèces, des tortues marines, des dauphins, les animaux de cirque, etc. Et on voit sur votre site, le site du Ellis Park, des animaux d'ailleurs qui sont des symboles. Il y a Rina, par exemple, une primate Rina, sauvée d'un trafiquant.
Ça, c'était son histoire. J'ai vu des photos, elle était enchaînée en menotte et elle avait bouffé jusqu'à l'os. Et le mec, il a rosé avec l'essence. Pour que ça c'est pas infecté. Et comme Femke, ils ont entendu un cri hallucinant et parce qu'ils étaient en train d'arrêter un trafficking. Et ils ont trouvé le singe et ils ont trouvé elle comme ça, menottée jusqu'à l'os. Et les polices, ils sont fous parce qu'en fait, c'est pas un singe protégé, c'était une macaque. Et après quelques heures de discuter, ils ont réussi en fait de prendre Rina et ils ont fait un choix difficile d'amputer ses deux bras parce que c'était pas possible. Et moi j'ai vu les photos de Rina et je le croyais pas, la cruauté, c'était aussi Femke qui quand après 30 secondes, j'ai vu quelqu'un qui était sur une mission bouleversante. Et elle voulait construire un centre d'éducation et un centre vétérinaire qui manquait un centre de vétérinaire. Et là, c'est une idée extraordinaire qu'il y a les classes maintenant pour les enfants pour apprendre qu'est-ce que ça fait, le trafficking des animaux, la cruauté des animaux. Elle a vraiment une grande idée, hein, en fait, de commencer au début. Et maintenant, on service les autres réserves.
Réserves.
En service, ils ramènent les animaux parce qu'on a construit un très bel hôpital.
Oui, donc vous travaillez ensemble.
Oui. Et à l'hôpital, on a maintenant une plantation de bananes, mangues et tout ça. Ça se nourrit des animaux. Il y a des singes et des ours. Crocodile, je crois qu'il y a un tigre qui arrive. Marmosette, c'est un singe qui vient de Amérique du Sud. Mais elle a jamais, en fait, elle a jamais travaillé avec des animaux exotiques. Ça, c'est un premier pour elle. Alors, on avait beaucoup WhatsApp, discussions, Google, qu'est-ce qu'on fait avec des suricates. Et là, elle réagit. Et moi, j'aime beaucoup ça.
Donc, il faut préciser que ce sont des équipes de bénévoles, qu'il y a des financements participatifs, des donateurs, des bienfaiteurs pour pouvoir aider ces lieux, en tout cas ces établissements, ces parcs. Florian Kirchner, c'est important de compter sur les associations, sur ces alerteurs, sur ces citoyens aussi, au-delà du travail des ONG. C'est indispensable peut-être d'agir sur ce secteur, avec le secteur privé, enfin privé, en tout cas associatif, et là, des bénévoles, des citoyens qui s'engagent.
Alors, c'est indispensable d'agir avec tout le monde. Tous les acteurs de la protection de la nature, alors ceux qui tirent la sonnette d'alarme comme ceux qui agissent sur le terrain, ceux qui recueillent des animaux, et puis là vous citez le secteur privé, le secteur privé est une partie du problème, il faut bien sûr travailler avec pour trouver des solutions, ou si des choses se font via des voies aériennes ou navales, où le secteur privé a des responsabilités, on doit agir avec eux bien sûr. Oui.
Il y a aussi quand même des organismes officiels, la CITES par exemple, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction qui existe depuis 1975. On pourrait peut-être penser aussi au programme de gestion durable de la faune sauvage qui a été lancé en 2018 par l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Est-ce que ces organismes-là arrivent aussi à faire avancer un petit peu les choses ?
Oui, oui. Alors, la CITES, c'est une convention qui est très importante sur ce sujet. Donc, c'est la Convention internationale sur le trafic des espèces sauvages, hein, de faune et de flore. C'est une convention qui est née suite à une recommandation de l'UICN. Si vous voulez, on était dans les années 60, là, en 1963, il y a eu une assemblée mondiale de l'UICN qui constatait l'ampleur des trafics partout dans le monde. Et comme il s'agit de trafics internationaux, les lois de chaque pays ne suffisent pas. Il faut des lois internationales. Dans ce cas-là, il faut un traité, il faut une convention. Donc, il y a l'assemblée de l'UICN a demandé aux États du monde entier de s'accorder pour trouver une façon de réglementer l'exportation et l'importation de faune ou de flore sauvage. Alors, un traité comme ça, ça ne se fait pas en 48 heures, ça a pris 10 ans. En fait, donc, 10 ans plus tard, en 1973, à Washington, a été signée la CITES, qui ensuite est entrée en vigueur en 1975. Alors, la CITES, les auditeurs ne connaissent pas forcément, mais elle est quand même bien connue par ses effets, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un moratoire sur le commerce de l'ivoire dans le monde, c'est grâce à l'inscription de l'éléphant à l'annexe 1 de la CITES. Comme l'éléphant est inscrit à la CITES, on n'a plus du tout le droit de commercer des parties d'éléphant et en particulier de l'ivoire. Et aujourd'hui, la CITES fait son office et nous permet vraiment de contrôler les trafics, d'enrayer les plus sérieux des trafics. Il y a plus de 38 000 espèces qui sont inscrites à la CITES. Donc, il faut imaginer que c'est une convention internationale qui interdit le commerce d'espèces quand elles sont menacées par les trafics. Soit qui interdit, soit qui réglemente. C'est-à-dire qui surveille, si vous voulez, les échanges et le niveau des échanges. Mais heureusement qu'on a ce traité international. Alors, il faut être clair sur le fait qu'on manque de moyens dans certains endroits du monde pour le faire appliquer, pour contrôler, tout simplement. Mais heureusement qu'il y a ce traité international, parce qu'au moins, il y a des trafics d'espèces qui sont interdits. On n'a pas le droit de trafiquer les écailles de tortue, ou les écailles de pangolin, ou la corne de rhinocéros, ou les peaux de félin. Tout ça, c'est grâce à la CITES, parce que c'est interdit en vertu de la CITES.
D'où l'implication d'Interpol, alors, c'est ça?
Alors voilà, Interpol, c'est une des organisations qui permet aux polices du monde entier de s'organiser pour démanteler des filières internationales. Alors, donc Interpol agit sur les trafics de drogue ou de contrefaçon, et heureusement, alors, à notre avis, pas encore assez, mais on espère que ça le sera plus à l'avenir, des organisations comme Interpol agissent pour suivre ces trafics, essayer de repérer les trafiquants, démanteler les filières. Mais vous imaginez bien que ça demande des opérations de police coordonnées dans les différents pays, différents services de police, différents services de douane, etc. Mais il y a comme ça des opérations régulières qui sont menées, et on arrive à démanteler des filières. C'est des réelles enquêtes, hein. C'est des travaux d'enquête avec des suivis, des écoutes, etc. Ça demande beaucoup de moyens, mais c'est à ce prix-là qu'on peut démanteler ces filières.
Alors à ce stade de l'émission, Florian Kirchner, je me tourne vers vous, bien sûr, vous restez avec moi en tout cas, pour pouvoir nous faire partager votre choix musical. Et j'ai le sentiment que vous aviez envie de faire plaisir aussi à Warren Ellis, non?
Oui, c'est ça, un peu pour faire plaisir à notre invité Warren Ellis. Le choix musical, c'est Red Right Hand par Nick Cave and the Bad Seeds. Get you some.
self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Et c'est la suite du magazine de l'environnement de France Culture, de Cause à Effet en direct. Et nous nous intéressons ce soir au braconnage et au trafic d'espèces sauvages. Un massacre qui malmène dangereusement la biodiversité et alimente une criminalité et des pratiques illicites comme le blanchiment d'argent et la corruption. Et nous sommes toujours avec le chercheur Florian Kirchner, chargé du programme Espèces au sein du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, auteur du livre Faune fragile, un livre paru aux éditions Teria, avec les très beaux dessins de l'artiste Sandro, et puis un autre artiste de renom avec nous, Warren Ellis, musicien, compositeur, auteur, et notamment on pense à la musique du film La Panthère des Neiges, bien sûr, le film de Vincent Munier, Marie Amiguet, et avec Sylvain Tesson, un film qui a reçu le César du meilleur film documentaire et aussi le César de la meilleure musique originale. Et vous êtes donc Warren Ellis, fondateur du Ellis Park à Sumatra. Je le rappelle, une émission en partenariat avec la coalition Hashtag Sauver le Présent qui réunit France Culture, Le Parisien Aujourd'hui en France, Ouzbek Erika, Science et Vie Junior. Le dossier complet vous attend sur le site de l'émission avec des articles de tous nos partenaires, articles sur des singes victimes et qui se retrouvent au refuge de la Tanière dans l'Eure-et-Loire, des jaguars d'Amazonie, victimes collatérales de la médecine traditionnelle, ou encore le trafic de serval en France. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages planètes du journal Le Monde, notre partenaire média, Perrine Moutarde, est notre œil du Monde Planète ce soir, et elle revient sur la situation de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, où on observe un lent retour à la normale. Bonsoir Perrine, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie est d'ailleurs sur place.
Bonsoir Aurélie. Oui, la guerre menée par la Russie a suscité beaucoup d'inquiétudes, suscite toujours d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes concernant la sûreté des centrales. Jamais un conflit d'une telle intensité ne s'était déroulé dans un état aussi nucléarisé que l'Ukraine, qui a 15 réacteurs. Et on se souvient qu'au premier jour de la guerre, les troupes russes se sont emparées de la centrale de Tchernobyl dans le nord du pays, qui est évidemment connue pour avoir été le théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, il y a tout juste 36 ans. Elle ne fonctionne plus depuis longtemps, mais il y a sur place des installations où sont entreposés des combustibles usés, des déchets, et bien sûr, il y a toujours les quatre anciens réacteurs. Et donc, pendant 5 semaines, une équipe d'employés ukrainiens a continué à faire fonctionner ces installations sous le contrôle des soldats russes, une situation totalement inédite. Les Russes sont finalement partis fin mars, et depuis ce départ, de premiers témoignages émergent de ce qu'il s'est passé pendant cette occupation. Des employés ont par exemple raconté avoir travaillé 35 jours d'affilée en dormant 3 heures par nuit en se rationnant sur les cigarettes. Ils disent aussi avoir été soumis à des interrogatoires parfois violents sur la façon de gérer les installations. Aujourd'hui, le site fonctionne de nouveau plus ou moins normalement. Ces derniers jours, par exemple, les moyens de communication directs entre la centrale et l'autorité de sûreté ukrainienne ont enfin pu être rétablis. Les employés commencent à pouvoir se relayer régulièrement. Malgré tout, la situation reste encore compliquée. Beaucoup de saccages et de vols ont eu lieu dans les bâtiments. Et autour de la centrale, les troupes de Moscou ont miné certains territoires. Alors aujourd'hui, effectivement, une mission de l'AIEA est arrivée. Elle a déjà dit que la radioactivité sur place était normale et elle doit aussi livrer aux Ukrainiens des équipements dont ils ont besoin.
Alors Perrine, Tchernobyl n'est plus sous contrôle russe, mais une autre centrale est toujours aux mains des troupes de Moscou.
Oui, c'est le site de Zaporijjia qui se trouve, lui, dans le sud-est. C'est la plus grande centrale d'Europe et l'une des 4 centrales en activité du pays. Les Russes en ont pris le contrôle le 4 mars. Aujourd'hui, il y aurait sur place environ 500 militaires. Alors, il est difficile de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais selon Energoatom, donc qui est l'entreprise publique ukrainienne qui exploite les centrales, là aussi, les équipes ukrainiennes continuent à faire fonctionner les réacteurs et apparemment, les employés peuvent se relayer toutes les 8 heures. Début mars, des combats avaient eu lieu tout autour du site de Zaporijjia, qui avait d'ailleurs été touchée par des tirs d'artillerie, ce qui avait fait craindre le pire. Aujourd'hui, la menace semble largement écartée. Elle n'est pas totalement exclue pour autant. Le PDG d'Energoatom rappelle que les employés du site ne contrôlent pas physiquement le matériel nucléaire et donc que celui-ci pourrait être emporté et utilisé à mauvais escient, selon ses mots. L'Agence internationale de l'énergie atomique espère aussi pouvoir se rendre à Zaporijjia dans les prochaines semaines.
Merci Perrine Moutarde.
Merci Aurélie.
Et pour retrouver bien sûr votre article sur ce sujet écrit avec Faustine Vincent, direction notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou bien le site du journal lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Ce parc national est le plus étendu du Kenya. Voici un rhinocéros noir. Il y a 30 ans, il n'en restait ici plus que 3. Traqués pour leurs cornes par les braconniers.
Ma génération les voit vivants. Donc je ne veux pas que mes enfants viennent me voir plus tard et me disent « Papa, nous avions des rhinocéros. Où sont-ils ? Qu'est-ce que je pourrais leur dire ?»
Aujourd'hui, les gardes repèrent des traces partout.
Vous voyez, il y a une empreinte de pattes. Et une autre ici.
En tout, le parc abrite aujourd'hui 116 rhinocéros noirs. Ce succès s'explique avant tout par des patrouilles renforcées, mais aussi par les nouveaux moyens technologiques dont elles disposent. Équipées de GPS et de mini-tablettes pour signaler le moindre indice en temps réel.
Ça permet de montrer que les rhinos se concentrent dans certaines zones. Donc ça permet aux responsables d'adapter en permanence la sécurité, de savoir stratégiquement combien de fois la zone doit être contrôlée et tout ça. Voilà un piège photographique. Les rhinocéros sont principalement actifs pendant la nuit. Donc on a besoin de caméras qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ils aiment bien ces rochers parce que vous voyez comment ils sont. Ils viennent pour se frotter contre eux et quand ils le font, la caméra les prend en photo.
La guerre a été gagnée, mais il faut qu'on continue d'améliorer nos technologies et travailler dur encore. Parce que les braconniers pourraient mieux s'organiser et revenir plus tard avec de meilleures technologies encore. Donc nous devons continuer à sans cesse les devancer.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 20 février 2021. C'était donc au Kenya, voilà, corne de rhinocéros, 50 000 à 100 000 euros le kilo. Plus cher que la cocaïne ou l'or, c'est ce que l'on disait précédemment, Florian Kirchner. À quoi sert en fait tous ces objets aussi? On pense à la corne de rhinocéros. Concrètement, pourquoi on en a besoin?
Oui, pourquoi on en a besoin? Oui, bonne question. Les trafics d'animaux, il y a plein d'utilisations possibles. Quand c'est des animaux vivants, c'est parfois des collectionneurs qui collectionnent des oiseaux précieux, des petits lézards précieux, des mygales par exemple. Donc il y a tout un trafic pour ces animaux-là. Il y a un phénomène un peu nouveau, le trafic de petits félins. Il y a des gens qui cherchent des petits lions ou des petits guépards pour se prendre en photo avec, par exemple. Donc ça, c'est une façon de voir des trafics. Mais souvent, les animaux sont aussi... c'est des parties d'animaux qui sont vendues. Alors ça peut être pour de l'artisanat. Tout à l'heure, on entendait parler d'écailles de tortue ou d'écailles de pangolin. Ou à Clivoire, par exemple, on peut faire de l'artisanat et des objets donc qu'on considère comme précieux. Et puis, il y a pas mal d'autres utilisations, alors notamment pour la corne de rhinocéros. On prête à la corne de rhinocéros quantité de propriétés thérapeutiques. En fait, non, c'est pour ça qu'on vend la corne de rhinocéros en poudre. La corne de rhinocéros, c'est pas du tout un objet, c'est pas une matière précieuse, la corne. La corne, en fait, c'est comme la
comme
kératine.
Les ongles.
Comme ce qui constitue nos ongles, exactement. Oui. Donc c'est pas du tout une matière précieuse, comme on peut le dire pour l'ivoire. Et la corne de rhinocéros est vendue en poudre parce qu'on prétend que cette poudre de corne de rhinocéros peut soigner, alors soit les rhumatismes ou les maux de ventre ou parfois les cancers, alors qu'on a fait plein d'analyses et qu'on sait bien que ça ne soigne rien du tout. On prétend même que ça a des vertus aphrodisiaques. Alors en fait, c'est simplement l'image de l'animal qui laisse penser que la corne peut avoir des propriétés aphrodisiaques, mais il n'y a rien de réel là-dedans. Et donc, c'est pour
croyances
des fausses croyances.
Dans certains pays en particulier.
Voilà, c'est
les
ça
pays
le grand
d'Asie,
malheur. C'est que c'est des fausses croyances. Oui. Alors, pour celle-là, c'est en particulier dans les pays asiatiques, effectivement, où pour ces fausses croyances-là, on met en péril des espèces à l'autre bout du monde, pour rien, en fait, tout simplement.
Et donc, la guerre est déclarée, hein, on entendait dans ce reportage. Est-ce que certains pays ne jouent pas volontairement le jeu? Alors, je pense, moi, par exemple, à cette vente d'éléphants, hein, par la Namibie aux Émirats Arabes Unis, je crois que c'était l'an dernier, capture et vente d'éléphants vivants réalisée par la Namibie avec l'exportation de 22 éléphants aux Émirats Arabes Unis. On voit bien que tous les pays ne respectent pas ou n'ont peut-être pas signé la convention de la CITES, hein, enfin la convention dont on parlait précédemment.
Alors, oui, l'exemple que vous citez, c'est un cas un peu particulier, ça a fait scandale. C'est cette année, hein, ça date de février, cette vente-là.
2022, alors.
Vente d'éléphants vivants, plus d'une vingtaine d'éléphants vivants de Namibie vendus aux Émirats Arabes Unis. En fait, malheureusement, le grand traité dont je parlais tout à l'heure, la CITES, a des failles. Et en fait, la Namibie a réussi à exploiter une faille du traité et à vendre de manière légale ces éléphants aux Émirats Arabes Unis. Et je peux vous dire que lors de la prochaine réunion de la CITES qui aura lieu au Panama en novembre, ce cas-là va être très discuté parce qu'il faut absolument du coup corriger la convention ou prendre une mesure qui permet de réglementer ces ventes d'éléphants vivants.
En tout cas, ça a créé effectivement, comme vous dites, un scandale quand même et sensibilisé à nouveau sur ce terrain-là. On n'a pas parlé encore des risques pour la santé humaine et des zoonoses.
Oui, alors, autre grand problème, ces trafics d'espèces menacées, c'est pas seulement une menace pour la faune et la flore qui en fait l'objet, c'est une menace pour nous. On sait que les trafics d'espèces, et en particulier les trafics de viande de brousse, sont impliqués dans l'émergence d'un certain nombre de maladies très graves. Alors, c'est le cas pour la pandémie actuelle du Covid-19, dont l'hypothèse la plus probable et très vraisemblable aujourd'hui, c'est que c'est bien ces marchés de viande de brousse en Chine qui ont été la source en fait d'une recombinaison virale qui ensuite a donné lieu à la pandémie qu'on a connue. Mais en fait, ça c'est pas la première fois que ça se produit. Alors ça a déjà été le cas si on remonte de Ebola. Les épidémies de Ebola sont liées au trafic de viande de singe, par exemple. Le SIDA également, viande de singe ou de chauve-souris. Hein. Le SRAS en 2003, c'était aussi des trafics qui impliquaient la civette et les chauves-souris. Et en fait, après le SRAS de 2003, des chercheurs dans une publication scientifique ont écrit que les marchés de viande de brousse qu'on observait, notamment dans les grandes villes asiatiques, étaient de véritables bombes à retardement pour de futures pandémies. En fait, en 2005, ils écrivaient très précisément le fait que si on n'agissait pas d'urgence, on allait avoir d'autres pandémies. Donc aujourd'hui, on en est là. On a vu une pandémie apparaître. Elle est extrêmement, enfin, elle fait des milliers, des dizaines de milliers de morts dans le monde. Mais c'est peut-être pas la plus grave. Donc si on n'agit pas tout de suite, on aura d'autres pandémies qui vont arriver. Donc en fait, ces trafics-là, plus la déforestation qu'on évoquait tout à l'heure, etc., nous mettent en péril, nous, humains, sur cette planète, très clairement.
Warren Ellis, vous voulez réagir ?
Je voulais ajouter quelque chose. Lorsqu'ils ont découvert les suricates, je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Femke m'a dit, mais tout film d'animation apporte un malheur à des gens, à des animaux, parce que les gens veulent les acheter. Et à un moment, les suricates sont très populaires avec les Indonésiens. Tout le monde veut en avoir un là-bas. Et à cause d'une série télé, la colonie des suricates, toutes les gens qui les regardaient, cette série, ont voulu avoir un suricate chez eux. Parce que ce sont des animaux en fait très compliqués, mais les gens ne vont pas au-delà de leurs désirs. Et les gens réfléchissent aux animaux et à la drogue de la même manière. C'est étonnant, on le met sur le même niveau. Or, qu'on fasse le trafic d'animaux ou qu'on fasse le trafic de drogue, c'est la même chose finalement, disent ces gens-là. Il faut s'éloigner de cette idée-là. Mais moi, l'histoire de mon parc, je suis vraiment un débutant absolu là. Et j'étais présenté à Femke, mais je vois que les choses commencent à fonctionner quand vous commencez vraiment à la base, quand vous y êtes. Moi, j'adoptais des rats, je soutenais des familles de léopards, des neiges. J'essayais de remettre de l'argent dans le système, mais je ne savais pas où ça allait, mon argent. Et quand on a commencé ce parc, je sais que chaque euro qui vient au parc va pour aider les animaux. Il n'y a pas de conseil d'administration, des choses comme ça. Si on était dans une organisation plus importante, on devrait attendre jusqu'à ce que quelqu'un nous dise « Allez, nourrir nourrir les animaux. Et moi, j'ai vu des éléphants mourir parce que les gens qui étaient dans le parc, les touristes arrivaient et le garde a dit « Mais moi, je ne les nourris pas parce que c'est un acte de Dieu. Voilà. » Et Femke a vu ses éléphants mourir de faim et de soif parce que le gouvernement ne lui donnait pas la permission d'aller par-dessus la tête des gardiens de ce parc et de les nourrir. Et maintenant, voilà, on le fait directement. Il faut aller par tout un protocole, mais les gouvernements s'en fichent, mais il faut passer par un protocole pour pouvoir avoir ces animaux, les sortir de leurs problèmes. Et ce qui est extraordinaire avec notre parc, c'est que on est vraiment dans hors-piste, on est aux marges. Et tout est fait par nous trois. Les décisions sont prises. Allez, on nourrit les animaux, on construit l'hôpital vétérinaire, on a besoin d'une machine à rayons X. Moi, j'aime ça. Ça me rappelle d'où je viens dans mes débuts à la musique. Aller trouver une voiture et aller jouer pour rien, mais pour le faire simplement. J'aime cet esprit qu'il y a dans le parc. On essaye de rentrer là-dedans et de faire quelque chose au sujet de cette situation. Vous savez, comme le réchauffement climatique qui semble être vraiment au-delà de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ben oui. Mais moi, ce que j'aime dans ce parc, c'est que toute la communauté autour de nous a cru à partir de la musique. Et moi, j'ai approché des institutions qui disaient « Non, il y a la pandémie, on n'a pas l'argent ». Je comprends parfaitement ça, mais c'est les gens autour de moi, c'est les communautés autour des Bad Seeds. Et j'étais tellement ému par ce fait, par les gens qui se réunissaient autour de cette idée d'aider le parc. Ça me donne l'espoir dans les gens, véritablement. Et je ne pourrais plus imaginer ma vie sans ce parc.
C'est intéressant ce que vous dites, Warren Ellis, parce qu'à la fois vous dites aussi d'où je viens. Alors d'où vous venez, c'est aussi l'Australie. Je ne sais pas si dans votre enfance, vous aviez déjà ce rapport au monde du vivant, aux animaux. Vous aviez cette sensibilité ou elle est venue vraiment avec la rencontre avec Femke?
L'Australie, c'est un endroit aussi étonnant que vous pouvez le croire. Les kangourous, les koalas, etc. C'est comme un paradis pour les animaux. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vient de là, mais comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les animaux. Je me suis rendu compte aussi que je suis dans une situation, à un moment dans ma carrière, bon, je ne trouve pas d'autres mots, je suis capable de remettre quelque chose dans ce quoi j'ai tellement reçu. Et le geste de faire ça, peu importe de sa taille, cette façon, juste ce geste de donner, ça en dit tellement. Et c'est comme l'amour. L'amour s'exprime très très fortement.
C'est
important pour moi de remettre quelque chose au pot, de remettre dans le système.
Meeting Vincent,
rencontrer Vincent Munier, quand j'ai travaillé sur le Léopard des Neiges, ça a changé ma vie. Ce type qui a dédié sa vie à photographier les animaux, et il m'envoyait des photos d'hiboux. Moi, je suis habitué de jouer dans des films. Mais non, ce n'est pas du tout la même chose. Oh, regarde ce truc-là. C'est le Grand-Duc, en dehors de chez moi. Et voilà des photos. Et des photos dans la neige, et tout ça. C'était en même temps que je donnais de l'argent au parc. Et Vincent a déclenché quelque chose chez moi en l'espace de 5 jours, en travaillant sur ce documentaire. Ça a été vraiment une des choses les plus merveilleuses de ma vie.
Et on entend justement un extrait de la bande originale du film La Panthère des Neiges. C'est la musique Les Affûts Elliptiques. Et je rappelle que ce documentaire a remporté le César du meilleur documentaire et le César de la meilleure musique originale. Cette musique qui est de vous, Warren Ellis, et de Nick Cave. Quand on entend, c'est vrai, il y a cette magie. Vous disiez, on a un rôle à jouer, nous artistes aussi. Est-ce que vous avez envie d'aller encore plus loin, Warren Ellis? Parce que la musique, elle transporte, elle sensibilise aussi, elle conscientise. Mais si vous aviez peut-être un projet à monter avec d'autres artistes, est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelque chose?
Have I
thought of a project with other artists?
musical?
Vraiment, j'ai eu beaucoup de bonheur de ma vie musicale. Je travaille avec des gens que je respecte. Je ne sais pas. Si quelqu'un veut venir travailler avec moi, j'en serais très heureux. Mais
pour moi,
ça doit représenter quelque chose. Moi, j'ai fait de la musique parce que c'est quelque chose qui m'importe.
Et
c'est cette chose qui nous relie tous d'une certaine manière. Et je le vois lors des concerts. Je le vois maintenant avec le parc. Vous mettez en place une idée. Et les gens reviennent, vous rejoignent et lui donnent de l'importance. Et tout ça, ça revient vers moi, c'est vrai. Mais tout ça, c'est très... Ça me donne beaucoup d'émotions, tout ça.
Et ça vous nourrit aussi, on sent intellectuellement et sur le plan des émotions.
Écoutez, on se sent impuissant. Et puis soudain, on voit cette injustice qui se produit. Et c'est horrible. Je me sens impuissant au sujet de tellement de choses. Et puis, vraiment, c'est difficile de se mesurer à certaines situations, mais si vous y allez, vous retroussez vos manches, mais ça va avoir un effet. Vous allez attirer d'autres personnes qui ont le même instinct que vous.
Et
c'est la seule chose qui parle vrai pour moi.
Florian Kirchner, le rôle des artistes, c'est important aussi. Alors, je rappelle le titre du livre que vous avez écrit, Faune fragile, mais il y a des dessins formidables de Sandro aussi. C'est cette sensibilisation-là, de cette façon-là aussi, qui peut peut-être changer les choses pour vous à l'UICN.
Ben oui, tout à fait, parce que en fait, le défi, c'est d'arriver à toucher tout le monde et embarquer tout le monde avec nous dans ce combat. C'est une lutte mondiale pour la planète, pour sauver la planète. Alors, nous, à l'UICN, on produit des discours scientifiques. Ça, c'est important, de bien décrire les choses, de décrire pourquoi les espèces ou les écosystèmes sont menacés, de trouver des solutions. C'est important de formuler les choses scientifiquement, mais c'est aussi important de mobiliser l'émotion, parce que le discours scientifique peut pas toucher tout le monde. Et la nature, c'est avant tout du bonheur et de l'émotion. Donc, oui, c'est ça, notre petite échelle. Donc, il y a ce livre qui est fait avec Sandro. Donc, Sandro, c'est une artiste marseillaise qui a fait des œuvres de peinture magnifiques. Il y a aussi un autre projet qui est des conférences qu'on fait avec une compagnie de théâtre qui est la compagnie du singe debout. Donc, c'est des conférences dérapantes. L'idée, c'est de mêler discours scientifique et émotion pour parler de la sixième crise d'extinction. Et bien sûr, croiser discours scientifique et émotion ou propos artistiques, c'est une façon de toucher tout le monde. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si la nature, c'est du bonheur, il faut le ressentir profondément en nous. Et on agit pas uniquement pour des motifs rationnels. On agit pour vivre bien et heureux sur cette planète. On agit aussi pour nous.
Et donc former, éduquer, Warren Ellis. Et le parc, donc, vous allez continuer à vous investir, à racheter des terres.
Je veux poursuivre le développement. Ça a dépassé tout ce que j'espérais déjà. Quand j'ai commencé ça, je ne savais même pas ce que ça allait impliquer. J'ai sauté dedans,
vraiment,
de façon très naïve.
J'ai
tellement été étonné par la réaction des gens et la façon dont ça a évolué. Je voulais continuer à grandir. Et je veux plus de gens qui se réunissent, plus de gens qui font exactement la même chose.
Merci à tous les deux. Merci Warren Ellis. Et je renvoie nos auditeurs, bien sûr, vers le site du Ellis Park. Florian Kirchner, je rappelle le titre de votre livre « Faune fragile » paru aux éditions Teria. Tous les liens, toutes les informations et le dossier de la coalition hashtag Sauver les présents sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition. À vous signaler aussi, bien sûr, la sortie en DVD du film Animal de Cyril Dion et celui, bien sûr, de Vincent Munier et de Maria Miguet, La Panthère des Neiges. Merci aussi à notre interprète Michel Zlotowski et bonne soirée à tous.